Il est 5h05 minutes. Aujourd'hui, à la météo, c'est alternant soleil-nuage, 40% de risque d'averse, mais il y a un risque d'orage en après-midi. La température sera plus endurable, disons ça comme ça. Maximum de 27 degrés avec l'humidex, ce sera 32. Généralement, nuageux, 40% de risque et risque d'orage ce soir aussi fera 17. Et demain, alternant soleil-nuage, 24 degrés. Ça va être une belle journée s'il ne pleut pas trop quand même. Et puis, pour mercredi, 27 degrés avec du soleil. Ça, c'est très, très, mais très confortable. Et il fait en ce moment 20 degrés à Montréal. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, le masque est obligatoire pour les usagers du transport en commun âgés de plus de 12 ans. Et ce, partout au Québec, dans tous les services de transport en commun. Le gouvernement accorde quand même une période de grâce de 14 jours avant de l'obliger de façon ferme le 27 juillet prochain. Annie Guillemette est journaliste pour Cogeco Nouvelles. Bonjour Annie.
Bonjour Louis.
Alors tu es actuellement dans le métro, alors est-ce que c'est respecté? Est-ce que la consigne est respectée?
Oui, vous savez, vendredi, la STM, les gens disaient qu'il y avait 60 % des clients qui portaient déjà le masque.
Ouais.
Eh bien, aujourd'hui, je peux vous dire que c'est la très grande majorité des usagers du métro. Là, je me trouve à la station de métro Berry-UQAM présentement, qui portent le masque. Bon, bien sûr, il y a des récalcitrants.
Ouais.
Il y a aussi, il faut le dire, là, quelques façons un peu créatives de le porter sur le menton, juste sur le nez, juste sur la bouche. Bon, un peu, c'est un peu... il y a un flou artistique.
Ouais. C'est ça, exactement.
Mais quand même, la vaste majorité des gens portent le masque. J'ai rencontré quelques usagers ce matin. Il y a quand même des gens qui veulent carrément rien savoir. On les écoute.
Ah oui.
Je portais déjà le masque de toute façon avant même que ça soit obligatoire, quoi que ce soit. Donc pour moi, c'est pas un problème en soi. Là. Il y a quand même un certain relâchement. Là. Je pense qu'on le voit tout, on s'en aperçoit tout un peu. Puis je pense que ça va juste faire en sorte qu'on va peut-être prendre ça un peu plus au sérieux.
Ça a de la misère à respirer.
C'est quelque chose de bien.
Ouais?
Ouais.
Pourquoi?
Pour qu'on protège nous-mêmes, on protège les autres.
Est-ce que ça vous fait peur de prendre le transport en commun?
Non.
Non?
J'ai jamais arrêté, je travaille toujours.
Ouais, mais ça, j'ai tout fait ça, moi, je suis pas capable. Trop dur, c'est pour moi.
Bon. C'est souvent la raison, Louis, qu'on nous dit
ben
pour
oui.
ne pas porter le masque, que la difficulté de respirer est constatée par certaines personnes. On sait cependant là, qu'on est dans une période de grâce pour les usagers. Québec avait parlé d'expulsion ou de refus de monter à bord comme sanction qui pourrait être appliquée aux gens, sauf qu'on n'a toujours pas... comme on dit dans le jargon, le décret, la
ouais.
règle applicable qui sera donc en vigueur le 27 juillet prochain. Du côté de la STM, on avait déjà annoncé nos couleurs la semaine dernière.
Ouais.
On a une approche de conciliation. Il y a des messages, on rappelle le message, on en entend aussi souvent. Et même, on distribue des masques à ceux qui n'en ont pas. Les changeurs en ont, les inspecteurs en ont, un peu partout sur le réseau.
Bon, bien, ils sont mieux de s'habituer parce que ça va être obligatoire partout dans tous les édifices
oui.
publics à compter de samedi prochain. Fait que là, le monsieur qui dit « je ne suis pas capable de respirer », mais là, habituez-vous, monsieur, c'est tout. T'sais?
Ça s'en vient.
C'est prouvé que ça ne fait pas mourir personne, le masque. Là.
Effectivement, merci. Mais c'est quand même une habitude difficile.
Ah ben oui, c'est sûr, c'est sûr, exactement. Merci, Annie.
Au revoir.
Au revoir. Annie Guillemette, notre journaliste, donc, qui est dans le métro de Montréal, elle dit que la consigne est quand même bien respectée. Mais à compter d'aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, à compter du 18, devrais-je plutôt dire, le port du masque va être obligatoire dans les lieux publics fermés partout au Québec. François Legault devrait l'annoncer un peu plus tard aujourd'hui, vers 13 heures. Il sera en compagnie, entre autres, du ministre Christian Dubé, du docteur Horacio Arruda et de la ministre responsable des régions de Montréal, Chantal Rouleau, dans une conférence de presse qui se tient à Montréal et qui sera diffusée sur nos ondes, bien sûr, comme c'est toujours le cas. Alors, on va obliger le port du masque partout, mais pour l'instant, il n'y aura pas de sanctions pour les gens qui ne le porteront pas. En fait, on va obliger les commerçants à faire respecter la règle. Selon ce que nous apprend Tommy Chouinard dans le journal La Presse ce matin, les propriétaires, par exemple, de commerce qui seraient pris en défaut à ne pas faire respecter la règle de porter le masque s'exposent à des amendes qui varient entre 1 000 et 6 000 $. Alors, c'est un pensez-y bien. Mais là, à un moment donné, il va falloir... Je comprends le monsieur tantôt, là, moi, je suis pas capable de respirer avec ça. Ça, c'est pas vrai là, que ça fait mou... les gens disent « je suis pas capable de respirer ». Il faut s'habituer tranquillement. C'est une norme sociale qui doit maintenant être implantée au Québec. On n'a pas le choix si on veut limiter la propagation de ce foutu virus. Quand on voit ce qui se passe en Floride là, en ce moment, on est à 15 000 cas Puis eux autres avaient ouvert les bars, avaient ouvert les plages, puis tout ça. Et c'est reparti à la hausse. Si on veut pas avoir la même situation chez nous, va bien falloir, à un moment donné, se rendre à l'évidence qu'il faut prendre des mesures. Alors, l'appel, d'ailleurs, de la santé publique a été suivi en fin de semaine. Samedi, la santé publique de Montréal a demandé aux gens qui avaient fréquenté un bar depuis le 1er juillet de se faire tester contre la COVID-19 pour savoir s'ils étaient infectés. Et entre 200 et 300 personnes se sont rendus hier dans les différents centres de dépistage pour un grand total de 800 depuis le début de la fin de semaine. Alors, il y avait beaucoup de jeunes, dit-on, à peu près 90% de ces gens-là étaient des jeunes qui ont donc décidé de se faire tester parce qu'ils avaient fréquenté justement un bar. Et là, ben, comme nous disait Denis tout à l'heure, les policiers ont été aussi plus présents dans les bars au cours des derniers jours pour s'assurer que la consigne était bien sûr respecté. Bon, là, il y a plein de gens qui se sont pris pour des policiers au cours de la fin de semaine dans la région de Québec, puis qui ont décidé d'aller tenter de trouver Martin Carpentier, qui est toujours porté manquant, en fait. Là, on n'a pas de trace de lui. On ne sait pas s'il s'est enlevé la vie ou s'il s'est sauvé, s'il est toujours dans le secteur. Bref, Martin Carpentier, c'est celui qui est soupçonné fortement d'avoir tué ses deux filles, Nora, 11 ans, et Romy, 6 ans, qui ont été retrouvées dans un boisé de Saint-Apollinaire deux jours, après l'alerte Amber qui avait été lancée dans la journée de jeudi. Bref, Martin Carpentier court toujours. Et là, il y a des gens qui se sont improvisés, qui sont allés dans les sentiers. Il y a même un animateur de radio de Québec, complètement inconscient, qui s'est promené en voiture dans les chemins environnants, qui faisait des Facebook Live, qui se promenait toute la nuit, puis toute la journée. Puis là, les gens disaient « Ah ben non, c'est pas grave, on n'est pas dans le boisé. » Mais imaginez le travail des policiers qui, eux autres, essaient de trouver une personne dans un boisé qui fait à peu près 15 kilomètres carrés. Puis ils sont encombrés de la présence de gens qui se prennent pour des justiciers puis qui se promènent dans les bois. Alors, tu fais comment pour savoir du haut des airs, par exemple, avec les caméras thermiques? Est-ce que c'est Carpentier ou bien c'est un soi-disant vengeur masqué là qui se promène dans le bois? À un moment donné, il faut réfléchir un peu, laisser travailler les policiers. Je parlais avec une amie qui est spécialisée dans les odeurs, dans le dressage de chiens, détecteurs d'odeurs, comme les chiens policiers, par exemple, qui me racontait que le simple fait de croire... Mettons que le chien est à la recherche d'un suspect. Donc, lui, il suit une piste, il suit une odeur. Et le simple fait d'avoir une personne qui vient passer dans cette piste-là, ça vient mêler le chien complètement parce que là, tu as des odeurs qui se mélangent entre elles. Alors, ça fait en sorte qu'on n'est plus capable par la suite de bien cibler la bonne personne. Et là, ben, si on multiplie ça par 50 personnes qui se promènent dans le bois, évidemment, ce sont des obstacles au maître chien et ça fait en sorte de rendre leur travail quasiment impossible. Alors, il faut bien sûr prendre la chose au sérieux, là, puis garder l'œil ouvert. Si vous êtes dans le secteur résident, ben, regardez ce qui se passe autour, puis assurez-vous qu'il n'est pas dans votre cabanon, qu'il n'est pas sur votre terrain ou quoi que ce soit. Mais de s'improviser policier, d'ailleurs, vous savez même pas dans quel état d'esprit il est, ce gars-là. S'il est toujours vivant, là, c'est quelqu'un qui est en fuite, qui est probablement complètement paniqué, qui a perdu le sens des proportions et qui peut être extrêmement dangereux. N'oubliez pas qu'il a tué deux enfants. Alors, il faut faire extrêmement attention et donc ne pas nuire au travail des policiers. Hier, vers 22h, les policiers se sont rendus dans le secteur du Rang-Saint-Lazare. Semble-t-il qu'il y avait beaucoup de va-et-vient policiers, un branle-bas de combat qui était dans ce coin-là. Mais finalement, le résultat, c'est qu'on ne l'a pas retrouvé. Et ce matin, on parlait de sources policières qui nous disaient « Ben non, il n'y a pas de changement pour l'instant ». On va faire bien sûr le tour de toute cette histoire un peu plus tard dans cette émission, dans le tour de table tout à l'heure. C'est une situation qui est extrêmement triste, qui a affecté, je pense, à peu près tout le monde qui a des enfants, puis même si tu n'as pas d'enfants, tu es capable d'avoir un cœur, là, au Québec, parce que ce sont deux fillettes qui sont complètement innocentes et qui sont victimes, bien sûr, de l'espèce de folie d'un homme qui a complètement perdu le sens des proportions. Alors, c'est une triste histoire, bien sûr, que cette histoire-là. Je vous ai parlé beaucoup de cette histoire-là qui, moi, m'avait fait beaucoup rire lorsque le gouvernement du Québec a décidé de mettre 30 millions de dollars dans une entreprise qui fabrique, en fait, qui veut fabriquer, parce qu'elle n'a pas fabriqué un seul jusqu'à maintenant, des dirigeables. La compagnie, c'est une compagnie française, mais qui a des partenaires chinois qui s'appelle Flying Whales. Tu sais, il n'y a rien comme une compagnie française pour appeler ses dirigeables Flying Whales. Alors, donc, le gouvernement du Québec a investi 30 millions de dollars dans cette entreprise qui veut fabriquer des dirigeables qui seraient utilisés pour transporter du matériel, entre autres, dans des endroits où il n'y a pas de route et tout ça. On parle, eux, lors de la conférence de presse qui avait été faite au Parlement à Québec à l'époque, il y a peut-être 6 mois de ça, on disait, oui, mais on pourrait transporter, par exemple, l'industrie forestière pour transporter le bois. Oui, mais on fait des chemins, puis on le transporte en camion, puis ça marche relativement bien, là, tu sais. Alors, donc, les autres veulent fabriquer des dirigeables. Le gouvernement du Québec, il croit dur comme fer. Or, le problème actuellement, c'est que, selon ce que nous apprend le Journal de Montréal, sous la plume d'Alexandre Billard, c'est que Flying Whales a un partenaire chinois. Et ce partenaire chinois-là, qui a mis des sous dans l'entreprise, fait en sorte que les autorités fédérales hésitent à émettre les permis nécessaires pour permettre justement à Flying Whales de se développer parce qu'ils ont peur, eux autres, que les partenaires chinois utilisent la technologie développée au Québec pour la vendre finalement au gouvernement chinois. Alors, c'est vraiment intéressant cet article-là qui démontre toutes les ramifications que peuvent avoir ces entreprises. Le ministère fédéral de l'Innovation, des sciences et du développement économique n'a toujours pas donné son autorisation d'exploitation à la filiale québécoise. On dit, c'est que la société d'État chinoise AVIC est partenaire du géant du secteur de l'aéronautique là-bas et partenaire, en fait, de Flying Whales. Alors, ce qu'on craint, c'est que on puisse utiliser des découvertes qui seraient faites sur le plan aéronautique chez nous ou encore en France et envoyer ça au gouvernement chinois. Aux États-Unis, AVIC est dans la mire du gouvernement fédéral qui, selon qui le puissant conglomérat est contrôlé par l'armée chinoise. Alors, vous voyez, c'est un peu la même crainte qu'on a avec Huawei, les fabricants de téléphones cellulaires et de technologies 5G. Là. Alors, en novembre, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, s'était dit conscient des questions qui étaient liées à la présence d'AVIC dans la structure financière, si on veut, de Flying Whales. Mais pour l'instant, on se pose toujours des questions sur cet investissement du gouvernement du Québec. Monsieur Fitzgibbon dit que c'est un bon investissement puis que il faut c'est du capital de risque puis il faut prendre des risques dans la vie. Sauf que Flying Whales a pas un seul client en ce moment, a pas un seul dirigeable qui a pris les airs depuis sa création il y a quelques années de cette compagnie en France. Alors moi je veux bien croire en cette nouvelle technologie, mais je demande à être en fait, c'est pas de la nouvelle technologie, soit dit en passant. Là. Des dirigeables, il y en avait à la Première Guerre mondiale. Et puis, là, on décide de reprendre le concept parce qu'on pense que ça pourrait être une nouvelle solution, n'est-ce pas, pour sortir du matériel ou des trucs d'endroits isolés. Pause café qui coûte cher, il y a un résident des îles de la Madeleine qui s'est rendu compte que de ne pas respecter les règles quand on voyage vers Souris pour prendre le bateau et s'en aller ensuite aux îles de la Madeleine. Parce que vous savez que vous pouvez y aller aux îles de la Madeleine en voiture, mais vous n'avez pas le droit de vous arrêter autre que pour mettre de l'essence dans votre voiture. Au Nouveau-Brunswick et à l'île du Prince-Édouard, on ne veut pas que les gens s'arrêtent dans les commerces. On doit faire le trajet juste d'un trait. Puis là, on arrive à Souris, on prend le traversier, puis on débarque par la suite aux îles de la Madeleine. Or, il y a un homme qui, lui, a fait le trajet, puis il était très affamé, rendu à Souris. Il a décidé d'arrêter dans un Tim Hortons avec son épouse. Et puis, ils sont allés casser la croûte quelques minutes. Ils sont remontés dans leur voiture. Et quand ils sont arrivés à la traverse de Souris, il y avait un policier de la GRC qui les attendait et qui leur a remis une amende de 1 050 $. Alors, ça fait cher le café. Hein? Alors, le monsieur dit, ben écoutez, il s'appelle Roland Renault. Il dit, ça avait été 100 ou 150 $, il dit, je broncherais pas, mais là, on s'est arrêté pour manger. Il y avait une seule personne dans le restaurant. Il dit, je trouve ça exagéré. Alors, il pourrait contester l'amende, évidemment, à l'Île-du-Prince-Édouard, mais il faudrait qu'ils se prennent un avocat là-bas. Alors, ça risque de coûter plus cher en frais d'avocat que l'amende en question. Mais écoutez, quand il y a des règles, il faut les respecter. Et puis, si on ne les respecte pas, après ça, on peut toujours arriver. Vous savez qu'il y a une règle de droit qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Alors, c'est à la base du système judiciaire. Alors, nul n'est censé ignorer la loi. Ça aurait dû être le modo qui se serait imposé, puis il aurait économisé 1 000 $. Alors que le nombre de cas de COVID-19 continue d'exploser aux États-Unis, bien là, est-ce qu'on va rouvrir la frontière comme prévu le 21 juillet? Bien, on pense que non. Et le gouvernement fédéral devrait, bien sûr, prolonger cette interdiction de traverser la frontière dans un sens ou dans l'autre, sauf pour les travailleurs essentiels, là. Parce que au-delà du 21 juillet, parce que les provinces le demandent, d'une part, puis on veut pas, on voit ce qui se passe ailleurs, puis on voit ce qui se passe en Floride, au Texas, en Californie et dans d'autres États américains, les États-Unis qui sont véritablement devenus l'épicentre de la pandémie de COVID-19, pas juste en Amérique, mais aussi dans le monde, quand on regarde le nombre de personnes qui sont atteintes de la COVID-19. Et dans le journal La Gazette, c'est intéressant, il y a deux universités à Montréal, l'Université McGill et l'École Polytechnique, qui avaient lancé, qui font des prélèvements, eux autres, dans les eaux usées de la ville de Montréal. Ils prennent des échantillons de façon régulière. Alors là, ils ont pris, même si bien souvent l'université a été fermée pendant un bout de temps à cause de la pandémie là, au cours de l'hiver, on a continué à faire ces prélèvements-là. De sorte que ils ont été congelés à moins 80 degrés Celsius. Et là, ce qu'on veut faire, c'est utiliser les échantillons qui viennent des systèmes d'égout qu'on collecte depuis le mois de février pour voir si on peut trouver des traces de COVID-19 dans l'eau. Alors, ce qu'on dit, c'est que ce serait une façon assez efficace de connaître l'état de la contamination, si on veut, de façon générale, parce que évidemment, si on retrouve beaucoup de traces de la COVID-19 dans les eaux usées, ça veut dire qu'il y aurait quand même une partie de la population assez importante qui aurait été infectée en cours de route. Alors, on aura les résultats de ça, dit-on, quelque part au mois d'août, parce que on va commencer à faire les tests à partir du mois de juillet, donc ce mois-ci, mais ça prend un certain temps avant d'avoir les résultats. Alors, on verra au mois d'août si c'est détectable dans l'eau et qu'elle sera l'étendue justement de la pandémie dans la région de Montréal.